Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui la lauréate du prix Femina 2022. Prix qui lui a été décerné cette semaine pour son nouveau roman intitulé « Un chien à ma table » aux éditions Grasset. Un récit qui dit combien la vie est âcre, pour reprendre ses propres mots, et qui est traversé aussi par la joie, la mort, l'amour et ce lien puissant au monde végétal et animal. Bonjour Claudie Huntinger.
Bonjour.
Dans un instant, nous allons entrer dans ce livre, votre 12e, si j'ai bien compté, qui fouille la même terre, la même matière que vos précédents. Mais pour commencer, un mot peut-être sur ce prix Femina qui vous couronne et dont j'ai l'intuition que c'est celui, et pas forcément parce que le jury est complètement féminin, mais que c'est une récompense qui vous va bien. Qu'en pensez-vous ?
Ah oui, je trouve aussi que cette récompense va vraiment bien à ce dernier livre particulièrement. Parce que ce dernier livre est traversé par la question, par une question. Qu'est-ce que c'est être une femme ? Qu'est-ce que c'est être une femme qui vieillit ? Et qu'est-ce que c'est une femme qui se sent à ce point en porosité avec le monde de la nature ?
Et un prix qui éclaire un peu plus votre travail. Et d'ailleurs, c'est grâce au Femina que nous avons la chance de vous recevoir ici dans ce studio à RFI, parce que vous vivez depuis longtemps dans l'est de la France, dans la région des Vosges, à Bambois. En même temps, c'est là où vous êtes née, n'est-ce pas ? Dans cette région ?
Je suis née dans cette région, mais dans une ville. Je suis née à Colmar. Et Bambois, c'est déjà la montagne. C'est-à-dire que la montagne, c'est vraiment ailleurs. Et c'est vraiment autrement, comme vie.
Et qu'est-ce qui vous attache autant à ce lieu ?
Ce lieu, je pense que je m'y suis attachée au contact des années. J'y suis arrivée à 25 ans. Après le lycée, après les études à Paris, après le premier temps où j'ai enseigné. Donc je me suis installée avec mon compagnon dans ces Vosges en 65. Et c'est peu à peu que quelque chose s'est transformé en moi. Je pense qu'on ne vit pas 50 ans dans un écart, comme on appelle ces fermes qui sont individuellement tout à fait autonomes parce qu'elles ont leurs sources et leurs bois et leurs prés, qu'on ne vit pas 50 ans sans se modifier, sans changer intérieurement et sans avoir quelque chose à dire sur ces autres mondes qui entourent notre monde à nous, humains. Voilà, sans avoir appris des choses et découvert des choses, exploré ce lieu.
C'est donc un lieu qui vous inspire et qui a nourri la matière de vos livres antérieurs, dont je cite les titres les plus récents, « La survivance »,« La langue des oiseaux »,« L'incandescente »,« L'affût » et « Les grands cerfs ». À croire, Claudie Huntinger, que vous vous intéressez presque plus au monde animal, au monde dit sauvage, qu'au monde des hommes, est-ce le cas ?
Ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que le fait d'être une femme, d'être née du côté du versant humain, est quelque chose à quoi je tiens, évidemment. Je tiens beaucoup, beaucoup à ça. Je tiens beaucoup aussi à notre langage. Je tiens à la littérature, je tiens à la poésie, je tiens à ce qui fait l'essence, dit-on, de l'être humain. Mais avec le temps, avec le fait de vivre là-bas, je sens que je me suis augmentée, que cette porosité que j'ai ressentie a fait que ces autres mondes qui m'entourent et ces autres lieux, ces autres langages, m'ont permis de découvrir que le langage humain, le nôtre qu'on place en haut de la hiérarchie, n'est pas le seul, n'est pas en haut justement de la hiérarchie. Et que le fait d'avoir, avec l'acquisition du langage en tant qu'être humain, de s'être senti comme un être à part, un être de culture, ce mur qui sépare nature et culture, c'est vraiment effondré. Il n'existe plus. Pour moi, Moi, je passe sans papier, d'un monde à l'autre, du monde des humains au monde des végétaux. Et surtout, donc, nous n'avons pas, nous, seulement le langage, mais il y a d'autres langages qui nous entourent. Voilà, ça c'est quelque chose de fondamental. Et cette absence de mur, cette absence d'abîme, parfois on parle d'un abîme qui sépare les humains de l'altérité du tout autre qu'est le monde animal, pour moi, non. Et il m'arrive de ressentir une altérité très puissante quand je me trouve parfois en face d'êtres humains. Il me semble plus étrange et plus étranger que si je me trouvais en face d'un chat sauvage.
Un chien à ma table est un titre que vous avez choisi en référence à la romancière néo-zélandaise Janet Frame qui a écrit « Un ange à ma table ». Pourquoi vous inscrivez-vous dans cet écho ?
Alors, « Un ange à ma table », le titre de Janet Frame, vient sans doute de Rilke.
Le poète allemand.
Voilà, quand l'ange à ta table s'installe, silence, quelque chose comme ça. Donc elle-même, poète, a choisi un autre poète pour parler, me semble-t-il, de l'inspiration. Voilà, un ange à ma table parle sans doute de l'inspiration, de la poésie qui est là à ses côtés, de peut-être de la solitude aussi, de cette cabane où, enfant, adolescente, elle s'installait un peu à l'écart de sa famille. Et donc un ange à ma table, c'est l'inspiration. Un chien à ma table, c'est au fond un ange chien.
Voilà. Oui, c'est la divinité aussi de la nature.
C'est aussi la divinité de la nature, mais aussi l'inspiration. Voilà, c'est quelque chose qui souffle, qui est là. C'est un ange, il y a des ailes. Voilà, c'est un ange à ma table et un chien à ma table. Pour moi, c'est l'inspiration qui est là quand on écrit.
Avec cette notion d'accueil aussi,
oui.
Qui est magnifique.
Oui,
la entrée, table.
Entrée, oui. Entrée les bêtes, entrée. Il y a aussi ça. Ça peut se comprendre absolument en réciprocité. Il y a l'ange qui s'installe à la table et puis qui inspire. Et puis, il y a aussi l'ange qu'on accueille. Et avec l'ange et le chien à la table, oui, entrez les bêtes, on vous fait de la place. Venez à table, venez à la grande table des humains.
C'est un livre qui bruisse de littérature, au pluriel, comme les branches des arbres. On sent dans votre récit, Claudine Hensinger, combien l'amour des livres, la lecture, l'écriture irrigue votre univers et celui de vos personnages, dont on va parler maintenant, si vous voulez bien. Elle, Sophie Hensinger, écrit « Veine », comme aime à se moquer son compagnon, Grieg. C'est un couple de longue date, plus de 60 ans de vie commune. Ils sont installés dans une maison isolée, en hauteur, dans la montagne, au cœur d'une prairie, loin de la ville, à une heure d'ici. Et puis un jour, une apparition dont Sophie dit « Je l'attendais ». En l'occurrence, ici, c'est une petite chienne qui a été martyrisée, qui arrive à sa porte, famélique, blessée, un collier encore autour du cou. Qu'est-ce que Sophie attendait et que représente cet animal ?
Je ne sais pas si Sophie l'attendait, mais c'est arrivé comme si un inconnu, inattendu, frappait à la porte. Cet petit animal blessé. Et qui la regarde dans les yeux, à la même hauteur qu'elle, sans aucun sentiment justement de hiérarchie, et qui lui fait confiance. La petite chienne lui fait confiance, parce qu'elle entre chez elle, et Sophie peut la nourrir, mais en effet, à peine nourrie, dans la nuit, elle repart.
Mais elle revient.
Voilà, elle reviendra.
Elle va revenir.
Oui, elle va revenir.
Parce qu'en effet, Sophie lui a donné à manger.
Oui.
Sophie va l'adopter.
Oui.
Et elle va la baptiser Yes.
Voilà, tout à fait.
Oui, en français, parce qu'elle a l'éclair en la voyant d'une phrase de Joyce, Ulysse précisément. Un Yes, I said, Yes, I will, Yes. Est-ce que ce Yes, ce oui, c'est comme une porte qu'on ouvre grand à la vie, plein d'espoir ?
Je pense que c'est presque un biface. C'est à la fois Yes, au tourment de la petite chienne, yes à ses blessures, yes on va te soigner, c'est à la fois ça, et puis c'est yes aussi, yes à la vie, yes aux difficultés, yes à la joie que cette petite chienne semble transporter avec elle.
Mais en même temps, est-ce que cet animal qui visiblement a été volontairement violenté par un homme dit aussi des violences masculines faites aux femmes?
Oui, c'est quelque chose de ce genre que j'ai voulu introduire un peu en hors-champ. La petite chienne vient du hors-champ, de ce lieu, dans la montagne. Elle vient de la société. Et j'ai voulu qu'elle parle, justement, qu'elle soit une sorte d'émissaire de la société, de sa violence, de tout ce qu'on peut lire d'horrible sur le trafic des animaux et sur la sexualité, ce qu'on appelle la bestialité, parce que ce sont des idées dans l'air du temps, ce sont les idées du temps. Je n'ai pas voulu esquiver les idées du temps, tout en les laissant hors champ. Elles viennent de là-bas, mais où elle est arrivée, ça va se passer autrement.
Mais sachant que Yes est une femelle, est-ce que vous avez hésité à choisir comme titre une chienne à ma table, puisque vous dites que ce mot au féminin est néanmoins très négatif quand on le balance à la figure?
Oui, en effet. Chienne et... Quelle chienne, chienne, c'est vraiment une injure. C'était une injure. Et c'est peut-être à nous de restaurer aussi toute sa noblesse et tout son sacré quand on pense à Hécate. Voilà, à la mythologie et au chien qui accompagnait Hécate. Et puis aussi à restaurer aussi le féminin dans toute sa sensualité. Il y a de ça, en effet. Si je ne l'ai pas mis une chienne à ma table, en titre, c'est une question d'ailleurs qu'on m'a posée en me disant, mais quelle injustice envers le féminin de n'avoir pas mis une chienne à la table. C'est qu'un chien à ma table porte quand même une autre signification. Ce n'est pas un titre politique. Voilà. Ce n'est pas un titre qui est une revendication du féminin. C'est un titre poétique qui fait référence, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, à un ange à ma table. Donc une entité neutre, au-delà de la guerre des sexes.
Et c'est ainsi qu'avec Sophie qui écrit, et ça, ce sera l'objet de la suite de notre émission, si vous voulez bien, Claudine Ziegler, nous allons vivre au quotidien cette belle relation d'amour entre ces trois êtres, parce que ce n'est pas seulement entre Sophie et Yes, c'est aussi entre Yes et Krieg. Et ce que ça soude entre trois, ce que ça recolle peut-être de ce couple qui vivait un peu l'un à côté de l'autre. Mais en attendant, je vous propose de faire une pause musicale. Alors j'ai trouvé des références un peu éclectiques, une allusion à Brigitte Fontaine, une citation de la rhapsodie hongroise de Liszt, un adagio de Mozart ou encore une chanson de Dominique A. Que préférez-vous entendre maintenant?
La chanson de Dominique A. Les éveillés, je crois.
Donc on écoute avec vous cette chanson de Dominique A.
Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé, jour et nuit. Si tu t'endors, tes yeux me quittent un instant, je disparais. Si je me retourne soudain, tu n'existes plus. Nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue. Nous n'avons pas le choix. Et tu le sais. Et même si tout concourt autour à nous distraire, si sentir d'autres regards peut nous éloigner, il n'est pas question que l'amour vienne à manquer si tu restes éveillé.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Claudie Hunziger, lauréate du prix Femina 2022 pour son roman intitulé « Un chien à ma table » aux éditions Grasset, qui embrasse le monde, même si ce monde brûle et s'effondre, qui dit la violence des hommes, mais qui est aussi un manifeste littéraire qui pose la question de l'écriture comme une sentinelle, comme un lieu pour éclairer la perte et retrouver l'éclair de la joie de la vie. C'est en tout cas ce qu'écrit votre narratrice, Sophie, qui se définit pour commencer comme une romancière des marges. Et vous, Claudie Huntinger, vous êtes une romancière des marges?
Je suis une romancière des marges dans la mesure où c'est avec elle que, par exemple, je viens ici. Je viens ici accompagnée, à ce micro, accompagnée de toutes les marges. Je viens parler des marges, je viens parler de ce qui échappe encore aux villes qu'on a séparées en deux, nature, culture. Donc je viens parler aussi au nom des marges, au nom des forêts, au nom des prairies, des oiseaux, des papillons, au nom des renards, au nom de la diversité du monde, mais sans séparer justement la diversité du monde en deux, d'un côté les mots, de l'autre côté les oiseaux. Je pense que la disparition des oiseaux est accompagnée de la disparition des mots. Toutes les nuances du vocabulaire, toute la diversité, ce que Ségalène appelait le fleuve diversité, qui est celui des mots aussi, affecte de la même manière, s'il s'appauvrit, affecte de la même manière toute la richesse du monde vivant. Les espèces de papillons s'appauvrissent, les espèces d'oiseaux s'appauvrissent, certains arbres vont disparaître à telle altitude. Voilà, je pense que c'est un effondrement total et qu'on ne peut pas séparer les mots et les oiseaux.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi être à la marge? Est-ce que ça veut dire ne pas parler du centre? Comme vous l'évoquez dans ce passage qui est un monologue intérieur, me semble-t-il, nous sommes page 130, et voici ce que vous écrivez. Parle du grand désordre du monde, mesure-toi au présent, écris ce que tu vis, écris la mort de tout ce qui vit, des forêts transformées en usines à bois, des prairies en usines à herbes, parle de l'épuisement de leur sol, parle de leur dévastation, fais vite, il ne reste presque plus rien. Fermez les guillemets. Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez décidé de tourner le dos aussi à cette vision lugubre, ou en tout cas d'en parler en faisant un pas de côté?
Certainement pas tourner le dos au lugubre. En être consciente, c'est très important. Et peut-être, du fait de cet immense émerveillement, de ce sentiment amoureux que j'ai pour le monde vivant, dans sa diversité fabuleuse, peut-être est-ce pour ça que je suis également sensible et dévastée par la dévastation. Voilà, c'est ça. C'est ça, je pense que un grand amour ne peut pas aller sans en même temps un grand chagrin, sans un grand sentiment de perte, sans une révolte contre cette perte. Et justement, écrire des livres seulement avec des mots, je pense que c'est notre arme, c'est ma seule arme. C'est la seule arme que j'ai pour écrire ce que j'appelle ce livre comme un manifeste. C'est la seule arme, mais elle ne peut pas passer, ça ne peut pas être dit si l'on ne parle pas d'abord de la beauté du monde. C'est en parlant de la beauté du monde et de sa diversité et de ce qu'il reste, il en reste quand même beaucoup, qu'on peut rendre les autres sensibles aussi. Mais si quelque chose qu'on aime disparaît, on se révolte. Voilà, donc c'est ce sentiment d'amour et ce sentiment de perte qui vont ensemble et qui pourraient faire se lever les consciences.
Alors ça, c'est effectivement ce que vous dites, Claudie Huntinger, c'est ce que dit Sophie, mais son compagnon,
oui.
Grieg.
Oui, Grieg.
Grieg, lui, il est moins optimiste. Voilà ce qu'il dit.
Oui.
Maintenant que tout se casse la gueule en bas, qu'il n'y aura plus de maison d'édition, ni de librairie, ni de livres, elle va écrire pour qui, notre écrivaine, qui a de la peine? Si tout se casse la gueule, pourquoi écrire encore? Puisqu'on a perdu, pourquoi écrire? Pour qui? Point d'interrogation. Que répondez-vous à ça?
Alors, je réponds que c'est un grand provocateur. qu'il me pousse dans mes réserves, voilà. Et que, dans un premier temps, Sophie, dans le livre, elle dit « on va pas l'écouter, Grieg, c'est pas possible, on va pas l'écouter ». D'ailleurs, il n'est pas tout à fait de bonne foi, parce que qu'est-ce que fait Grieg? Il a tourné le dos, en effet, au monde. Mais toutes les nuits, il se réfugie dans la bibliothèque. Or, se réfugier dans une bibliothèque, c'est continuer à croire à la lecture. C'est continuer à croire au livre. C'est continuer à croire dans le genre humain aussi. Voilà, dans ce qu'il a de plus fabuleux.
Même si c'est le monde du passé.
Même si c'est le monde du passé.
Parce qu'il ne lit que des écrivains
oui,
morts.
Oui, et des écrivains qu'il ne peut relire que 3 fois ou 5 fois.
C'est ça.
Voilà, c'est
donc
ça le critère.
Donc des grands textes.
Voilà, oui, oui, oui.
Donc il vous provoque en disant ça.
Il me provoque évidemment pour que, sans doute, pour que je lui résiste, pour que je lui réponde, pour que j'oppose une résistance. Oui, c'est ça la provocation.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous lui répondez. Ou bien on se bat, ou bien on se couche. Comment se bat un écrivain et une écrivaine? Comment elle se bat puisqu'on fait la différence? Ses armes sont-elles différentes de celles d'un écrivain? Alors moi, ça m'intéresse d'entendre votre réponse à cette question, Claudine Diguer, parce que c'est vrai que la question du genre est évoquée à plusieurs reprises.
Oui.
Le genre féminin,
oui.
Le genre qu'il faut déconstruire, le genre de vos lecteurs. Vous le disiez aussi au début de cet entretien, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, une femme qui a vieilli? Donc c'est bien une question récurrente dans ce livre.
Oui, j'ai commencé par cette question. Mmh. Oui, oui, ça, elle m'intéressait parce qu'elle n'était pas claire pour moi. Ça a été toujours très, très facile pour moi d'être une femme. Je ne me suis jamais sentie dans de mauvais draps. C'était une éducation aussi qui m'avait été donnée par ma mère.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre de vous interrompre, d'une certaine façon, vous devenez écrivaine par votre mère, parce qu'elle vous... parce qu'elle vous abandonne, entre guillemets.
À la fois, comme ça, mais en même temps, je pense qu'un écrivain, il naît, tout craché. Déjà là, il y a un petit noyau dur dans un enfant qui naît. Et chez un écrivain, oui, parce que je ne pense pas que le milieu sociologique soit prépondérant. Ce n'est pas la famille qui forme un écrivain.
Non, mais ça peut être une réaction à la famille.
Ça peut être une réaction à une famille, ça peut être une rencontre dans un collège avec un professeur, ça peut être une rencontre avec un livre, ça peut être là une rencontre avec une mère et qui vous parle poésie. Voilà, je pense que, je dirais plutôt que les écrivains sont des anomalies.
Dans quel sens ?
Des anomalies dans leur famille. Ouais. Pourquoi y a-t-il un écrivain dans une fratrie ? Pourquoi un ? Souvent un. Et des frères et sœurs tellement différents. Pourquoi ? Voilà, ça reste mystérieux.
Alors revenons à la question qu'on avait commencé d'explorer avec vous. En quoi c'est différent d'être une femme qui écrit versus un homme qui écrit ?
Ça c'est aussi une provocation dans la mesure où il n'y en a pas. Personnellement, je ne trouve qu'il n'y en a pas. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis interrogée dans ce livre. C'est à ce sujet. Y a-t-il une écriture féminine ? Y a-t-il une écriture plus virile ? Je pense que s'il y a des écritures différentes, c'est aussi une question là de genre, parce qu'on a été élevé. Je pense par exemple à Ernst Jünger, qui est vraiment une écriture viriliste, qui s'intéresse pourtant au monde et aux insectes dans ses minuscules particularités. Écrivain auquel je ne m'associe pas du tout. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une écriture, là, plutôt des marges. Vous parliez du centre. Qu'est-ce que le centre pour moi ? Qu'est-ce que les marges pour moi en tant qu'écrivain ? Moi, je dis écrivain. Ou en tant que romancière, ça me va bien aussi. Ou en tant qu'auteuresse, ça me va mieux qu'autrice. Voilà, on est dans une confusion et une possibilité de mots qui se forgent en ce moment autour de tout ce qui est féminin, qui nous laisse quand même de liberté. Je crois qu'on peut... On peut éviter de dire autrice, on peut dire auteur, des choses comme ça. C'est encore très acoustique. Pour moi, c'est acoustique. Et quelquefois, ça me heurte les oreilles. Donc, je dirais que ma mère était née au centre. Elle était née au centre, culturellement, littérairement. Fille et petite-fille d'instituteurs, les dictionnaires de la langue française, étaient son centre. C'est à ça qu'elle se référait. C'est comme ça qu'elle a fait ses études. Pareil à celle de son père et de son grand-père. Et elle a appris la littérature, elle a appris l'orthographe, la grammaire, par des instituteurs. C'est vraiment le centre. Mais, en même temps, ma mère était une villageoise. Sa mère n'avait pas fait d'études. Et les langues de sa mère étaient les langues florales, des langues animales. Elle savait tout des jardins. Elle savait très bien les couleurs des giroflées, comment on les plantait. Elle savait tout, comme Colette d'ailleurs, l'écrivain Colette. Elle savait tout aussi par sa mère. Elle savait aussi tout du sens du vent, des nuages. Elle savait tout des bêtes, des chats. Elle était beaucoup plus proche de ce monde-là, que j'appelle donc les lisières, par rapport au centre patriarcal. Il y a un centre patriarcal et il y a des lisières matriarcales.
Et ça a été votre héritage?
Et ça a été mon héritage, le double héritage. Et j'ai toujours pensé que ces marges dans lesquelles on reléguait les femmes, par convention de genre vraiment, ça a été pour moi, ça a été quelque chose de très riche, de très enrichissant. Parce que s'il n'y avait pas eu nous, les femmes, pour nous occuper des bêtes, nous soucier des bêtes, pour nous soucier des jardins, pour nous soucier de la beauté, de cette beauté même du monde, des bouquets, des enfants, mais qui l'aurait été? Donc nous avons été aussi des émissaires de ce monde-là, qui aujourd'hui reprend toute son importance.
Et c'est par l'écriture, le crayon, que vous pouvez sauver cette beauté, l'éclairer avant qu'elle ne disparaisse, Claudine Ziegert?
Oui, je pense. Je pense que l'écriture, la poésie, les poèmes, la littérature, les romans ne sont pas seulement sociologiques. Il peut y avoir des écritures sociologiques complètement tournées vers la société. Et je pense à Annie Ernaux. Annie Ernaux qui est presque une sœur pour moi puisqu'elle est née en 40. Et nous sommes toutes les deux, en astrologie chinoise, nous sommes toutes les deux des dragons. Voilà, elle a exploré ce monde sociologique dans lequel elle est née et elle a voulu venger sa race. C'est très bien. Mais c'est très bien aussi, je pense, de pouvoir explorer les marges et de venger ces autres races qui ont été tuées et brimées si longtemps en même temps que les femmes.
Je vais citer avant de nous quitter cette phrase, ce petit paragraphe plus exactement, où votre personnage rencontre une jeune fille motarde qui vit à 100 à l'heure et avec qui il y a un échange autour de la moto. Et voilà ce que dit Sophie. C'est comme écrire un roman, on assemble sa bécane à partir de n'importe quoi, on s'accroche à elle, on se casse, on roule, on est libre et on peut prendre des chemins interdits. Quelle belle définition de la littérature, n'est-ce pas?
Oui, j'ai adoré cette motarde que j'ai rencontrée en réalité dans la vie.
Alors justement, on ne dira rien de la fin de votre roman. C'est une fin qui est absolument déchirante et qui est sans doute une métaphore de la nécessité de l'autre, de la rencontre avec un être plein de joie pour allumer, rallumer l'étincelle de la vie, du combat sans céder, mais... Encore un mot sur cette petite chienne. Est-ce qu'elle existe sous le nom de Yes ou pas d'ailleurs?
Elle existe, mais sous un autre nom, à qui j'ai dit hier matin quand je suis partie. Attends, je reviens.
Et à qui vous allez dire en revenant, j'ai eu le prix Fémina.
Oui.
Pour ce livre qui a inspiré un peu de toi?
Tout à fait.
Que oui. C'est beau. Merci beaucoup, Claudie Hunziker. Je rappelle le titre de ce très très beau roman, Un chien à ma table, aux éditions Grasset, magnifiquement récompensée par le prix Fémina 2022. Merci encore.
Merci à vous aussi.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.